Bienvenue sur le journal des rencontres avec l'invité du jour, Anne Morin. Bonjour Anne.
Bonjour René Sabaton.
Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Et d'abord, avant de parler du film que vous êtes venu nous présenter, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ce que vous avez fait dans le domaine du cinéma à ce jour ?
J'ai commencé en 98, je crois, avec un film qui s'appelle Le Bonheur domestique, qui était un court-métrage sur un couple qui m'est cher, mon oncle et ma tante, et qui a une utilisation un peu maniaque de l'espace. Ensuite, j'ai filmé ma famille bulgare dans Mais toi et moi. Puis j'ai filmé ma tante bulgare. Et puis là, j'ai filmé mon mari, mon fils et moi.
Voilà.
Donc je filme souvent mes proches.
D'accord.
Voilà.
D'accord. Alors, venons-en au film, justement, à ce film que vous êtes venu nous présenter. Le titre d'abord, qui est très amusant. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur ce titre ?
Alors, Rififi dans le tiroir. Le Rififi, c'est un mot un peu désuet, mais j'aime bien ce qui est désuet. Et le Rififi, c'est la bagarre. Et dans le tiroir, ça fait référence à Polichinelle dans le tiroir. Et en l'occurrence, ce titre m'est venu dès les premiers rendez-vous avec les psychologues de l'adoption, où on m'a dit un jour, après un rendez-vous où on avait parlé de plusieurs choses, qu'aujourd'hui on avait ouvert plein de petits tiroirs et que nous, le couple, il fallait qu'on retourne dans ces tiroirs, qu'on se repose les questions. Et je me suis dit, mais c'est complètement dingue de parler à une femme qui ne peut pas être enceinte, qui a donc du rififi dans son tiroir, de tiroir. Je trouvais que cette assistante sociale ne se rendait pas compte visiblement de l'absurdité de ces mots. Et c'est là où est venue l'idée du film. Avec l'absurde.
En parlant de tiroir, on va s'apercevoir en parlant de ce film qu'effectivement, d'une certaine façon, c'est un film à tiroir. Donc un film sur l'adoption, vous l'avez dit, l'adoption de celui qui est devenu votre fils.
Oui.
Alors non, on va en venir à ça, mais d'abord, si j'ai bien compris, le tournage a duré 5 ans. 5 ans, c'est long, ça doit être un record. Comment est-ce que vous avez fait pour ne pas baisser les bras ?
Alors, ce n'est pas un record. Il y a des films qui ont été tournés pendant 10 ans.
C'est vrai ?
Oui, souvent
mais
des films de famille.
Mais 5 ans, c'est pas mal quand même.
5 ans, c'est pas mal, oui. C'est beaucoup. Alors, je n'ai pas baissé les bras, mais parce que ça m'aidait. Mm-hmm. En fait, le film m'a beaucoup aidé à continuer la bataille. Les parcours d'adoption sont souvent très longs en France. Celui-ci a été long parce que... Alors que nous pensions pouvoir adopter au Mali, il y a eu des événements politiques qui ont
bloqué,
voilà, c'est ça. Et donc, on a commencé une bagarre diplomatique. Une bagarre, enfin, je ne sais pas si c'est une bagarre. Enfin bon, nous, on se sentait un peu combattant.
Une lutte.
Une lutte, ouais. Et donc, de faire le film me permettait aussi de tenir. Parce que il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Et en gardant ce fil,
Le fil conducteur, quelque part.
Le fil conducteur, oui.
D'accord.
Je gardais aussi le fil avec le réel.
Voilà. Alors, donc, vous avez évidemment filmé par intermittence sur cette période de 5 ans. Il y a eu des longues coupures où vous ne filmiez plus.
Oui. Il y a eu des moments où parce que mon mari aussi, il filmait beaucoup.
Prenante.
Oui. Jean-Philippe Urbac, où on filmait plus parce que... c'est souvent parce qu'on était assez désespérés. Il y a eu pas mal de moments où on était très... au point très, très mort. Et là, on n'avait plus envie de prendre la caméra. Il faut quand même un élan de vitalité pour prendre la caméra. Donc, il y a eu pas mal de moments où on a arrêté. Et puis, on a repris. Et puis, on a mis en scène des choses.
Alors, 5 ans de filmage, de tournage, ça suppose un travail de montage énorme.
Ouais. Alors d'abord, il y a beaucoup, beaucoup de rush.
Ouais.
Énormément de rush que j'ai mis très longtemps à regarder. Ça m'a pris presque Un an.
Un an pour, ouais, ouais.
Pour tout regarder.
Quand tout était fini.
Quand tout était fini, ouais, ouais. Ouais. Et puis j'ai écrit tout, j'ai retranscrit tout ouais. ce qui se disait. Ouais. Donc ça, c'était assez long.
Donc il y avait un travail de réécriture, paradoxalement, après.
Ah ben ça, c'est la magie du montage. Hein. Le montage...
Ouais. De certaine façon, c'est un deuxième récit.
Absolument. Ouais. C'est totalement un deuxième, voire même des fois un troisième, parce que des fois, on écrit un film, on en tourne un autre, parce que le réel aussi nous embarque ailleurs, et on en monte encore un autre.
Un troisième. Ouais. Et si je comprends bien, c'est vous qui avez monté le film.
C'est moi qui ai monté, ouais.
Ouais. D'accord. Ouais.
Alors là, c'était pas c'était pas voulu au départ. C'est que il y a eu des, comme ça arrive assez souvent, il n'a pas eu un parcours de production qu'on lui aurait souhaité. Et
préciser donc, cela.
Eh bien, la productrice Blanche Guichou de Agathe Film a essayé de chercher des partenaires partout. Et puis, on en a trouvé un et il fallait qu'on ait le CNC et on n'a pas eu le CNC. Donc, son édifice assez fragile hein, s'est écroulé. Et donc, voilà, je me suis retrouvée avec le film
sur les bras.
Mmh. Et donc, j'ai décidé de le monter moi-même. Alors, il se trouvait que je savais monter, techniquement, je veux dire. Et il se trouve que Jean-Philippe Urbach est aussi monteur.
Mais en plus, c'est un film tellement personnel que je crois qu'il était préférable que vous fassiez vous-même le montage.
Oui, moi, je ne crois pas que... On dit toujours qu'il faut de la distance. Eh bien, je ne crois pas qu'il faut toujours de la distance.
Pas sur un sujet comme celui-là,
non,
en tout cas.
Non. D'être aux manettes m'a permis aussi de prendre le temps nécessaire. Mmh. Et de tourner des scènes que je n'avais pas tournées, de les retourner, enfin de les retourner, de les tourner, d'essayer, de faire beaucoup d'essais. Et donc comme le film a été tourné pendant 5 ans, il a aussi encore été un peu tourné pendant le montage, avec quelques scènes qui n'étaient pas prévues.
Et qu'il fallait refaire,
ou faire tout court.
Mais la question qui se pose quand même, quand on voit le film et la tension que ça représente, psychologique, nerveuse, comment est-ce que vous avez fait pour tenir, je veux dire, psychologiquement, quoi? Moi, j'aurais pas pu.
Pour vous dire la vérité, vous voulez parler du film ou du réel?
Je parle plutôt du réel, mais
du réel.
Bon,
oui. Ben, le réel...
Il y a des moments où on sent que...
Ouais, il y a quand même eu des petites... des chutes. Pas des petites, non, il y a eu des chutes. Non, j'aime pas du tout cette expression de parcours du combattant, mais n'empêche que
ça
a quand même été beaucoup ça. Et donc après, quand on a rencontré notre fils, j'étais épuisée. Donc c'est ça aussi, hein, la conséquence de ces temps très très longs.
Ces montagnes russes.
Ouais. Mmh. J'étais assez fatiguée.
Tout à fait. J'imagine volontiers. Alors, une question purement pratique. Vous êtes souvent à l'écran,
ouais.
Ce qui se comprend, puisque vous êtes la cheville ouvrière du projet. Vous êtes finalement, oui, si on peut dire. Il y a un petit côté fictif dans la façon dont c'est construit.
Oui.
Ce qui est très heureux d'ailleurs, parce que ça aide ça ajoute à l'intérêt du film. Et donc vous êtes au centre du film. Mais qui c'est qui filme quand vous êtes à l'écran?
Alors c'est soit Jean-Philippe Urbach, mon mari, soit j'ai posé la caméra. Je pose la caméra sur pied.
Oui.
Et voilà.
Comme ça. Ouais.
Comme ça. Et, ouais. Et je me filme.
Ouais.
Et quand je m'adresse à la caméra, je n'ai pas du tout l'impression de m'adresser à quelqu'un d'autre que moi-même.
Ouais.
Donc, c'est pas un problème. En fait, il n'y a pas de... Je ne suis pas là en train de chercher à paraître. Hein. Je suis juste comme je suis au moment où je suis. Parce que j'ai juste... Là, il y a Anna Solène qui est derrière la caméra,
oui.
Qui nous regarde,
oui.
Qui nous filme. Mais moi, quand je suis seule, il n'y a personne qui me filme.
Non.
Donc, je suis vraiment seule avec moi-même.
Oui.
Donc, je ne me prépare pas.
Oui, mais alors, je pense que ça, c'est une performance d'actrice. On a l'impression que vous vous adressez à nous, ce qui est bien, d'ailleurs. Parce que vous nous mettez dans la confidence.
Oui. Ben non.
Mais oui,
je m'adressais...
C'était pas ce que vous vouliez, mais c'est bien qu'il en soit ainsi.
Oui, absolument.
Vous voyez
ce que
je veux dire ?
Oui, c'est très bien. Oui.
Alors, ce film et ce travail pour adopter un enfant Afin qu'était tant du point de vue technique, tant du point de vue de la production que de tout autre point de vue, un travail d'équipe. Parlez-nous un peu des différents protagonistes.
Alors, donc dans le film, le premier est donc Jean-Philippe Urbach, hein, qui est mon mari, et avec qui nous avons donc, nous sommes donc devenus parents et nous avons filmé ensemble. J'étais avec une productrice hein, qui était Blanche Guichou de Agathe Film, et puis ensuite, quand le film a été terminé. Parce qu'il faut quand même toujours un cadre juridique administratif à un film. Je suis allée avec Escalenta qui m'a accueillie. Et alors dans le film, donc on voit qu'il y a une famille, hein, puisque l'adoption c'est quand même une histoire de famille. C'est pas qu'une histoire de foyer, c'est une histoire de famille.
Hein. Un célibataire peut-il adopter ?
Oui, oui, en France, oui. Dans certains
pays.
Mais
c'est pas évident. On ne le favorisera pas, sans doute.
Non, c'est vrai. Et puis, mais je ne sais pas comment ils font. je suis très admirative.
Donc, la famille.
Donc, la famille. Et puis, donc, quand le Mali se ferme à l'adoption, après, il y a un coup d'État, puis après, il y a une loi qui interdit l'adoption internationale.
Parce qu'il faut préciser, pour ceux qui n'ont pas encore vu le film et qui vont le voir maintenant, que l'enfant que vous vouliez adopter venait du Mali.
Oui, absolument. Nous étions portés candidats au Mali et le Mali nous avait acceptés. Et puis après, il y a eu donc un coup d'État et après, il y a eu une loi qui interdisait l'adoption internationale. Et à partir de ce moment-là, nous, on s'est dit, mais ils nous ont sélectionnés, essayons d'aller au bout de ce processus que nous avons commencé avec le Mali. Et donc là, nous avons monté un collectif de parents qui étaient dans la même situation que nous.
Et donc, la région parisienne ?
Non, sur toute la France, il y avait environ 70 familles françaises qui étaient concernées par cette situation. Et dans le monde entier, il y en avait 150, des Canadiens, des Espagnols, des Italiens, des Allemands. Et donc, on a monté un collectif. Mais nous, Français, on était en relation avec les collectifs espagnols et italiens. Et dans le collectif, au départ, on était une dizaine de foyers. Puis le temps passant et les hauts et les bas... le collectif s'est réduit et à la fin, on n'était plus que 4 foyers.
Ah, il y en a beaucoup qui ont laissé tomber. Donc.
Oui. Ouais. Oui. Alors, qui ont laissé tomber soit leur démarche d'adoption, soit le collectif, la bagarre. Ouais.
Mais donc, si je comprends bien, bon, quand vous étiez au début, les 70 familles, c'était essentiellement, voire exclusivement, des échanges épistolaires ou par informatique interposée. Ouais. Mais à partir du moment où vous n'étiez plus que 4, là, vous étiez beaucoup plus proches les uns des autres.
Oui, mais il y avait quand même, par exemple, il y avait un couple à Montpellier, très actif.
Oui. Oui. Sur la région parisienne ?
Oui, on était essentiellement sur la région parisienne.
Voilà,
ouais.
Là, c'est des gens que vous connaissez bien maintenant.
Oui, oui, oui.
Bien sûr,
oui,
voire oui. Même peut-être des amis.
Voilà, ce sont des amis, effectivement.
Qui apparaissent dans le
film. Oui, il y a Laurence Aziza qui est dans le film. Oui. Il y a Florence et Bernard Barrère qui étaient à Montpellier. Il y a Véronique Blanc qui apparaît aussi dans le film. Il y a les Belles Amies. Alors eux, ils sont dans Lons-le-Saunier, donc ils ne sont pas dans le film, mais ils sont quand même amis.
Voilà.
On a gardé...
Voilà, de bons rapports avec eux. Alors, tout au long du film, vous avez, en incise, ménagé des intermèdes. Ce sont par exemple les bonhommes en fil de fer et autre chose encore. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces intermèdes, qui sont pleins d'humour, pleins de poésie pour la plupart, mais aussi sombres pour certains? Expliquez-nous en quelle façon ils rythment le film, qu'est-ce qu'ils apportent à votre écriture?
Les personnages en fil de fer sont comme des avatars, c'est-à-dire qu'ils tiennent des rôles que nous ne pouvions pas tenir. Par exemple, une dispute de couple. Quand un couple se dispute, il pense rarement à mettre la caméra en marche. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est très sain de le faire.
Que dans un film de fiction.
Voilà, c'est ça. Donc, ça, on ne l'a pas fait. Et donc, je l'ai remis en scène avec des personnages de fil de fer.
Les glands aussi.
Les glands sont des personnages, tous les personnages politiques et diplomatiques. Que nous sollicitons.
J'espère que personne n'y verra un jeu de mots.
Alors justement, on m'a fait remarquer, une fois que le film était sorti, que j'avais choisi à dessein des glands et non. Vraiment pas. Donc non, non, il n'y a pas de jeu de mots, il n'y a pas de...
Pas de malice impliquée.
Pas de malice, non, non. Non, non, je trouvais que c'était des très beaux objets que j'avais trouvés dans la nature et qui avaient des formes humaines.
Oui, bien sûr.
Voilà. Les dessins, alors, bah, alors les dessins, c'est par exemple une séquence que j'ai tournée après coup, pendant le montage.
Oui, il y a des trucs, des trucs ronds, des cercles, ouais. Comme ça.
Ouais.
Ça correspond souvent plutôt à un moment psychologiquement où vous sentez un peu au bout
de
du rouleau.
De tension, voilà. Oui. Donc ça, c'est des séquences d'animation que j'ai faites après coup. Après, il y a des... Il y a des tas de séquences aussi que j'ai filmées tout au long de ces 5 ans, qui n'avaient pas forcément à voir avec l'adoption, mais qui pouvaient m'émouvoir.
Oui. Moi, je trouve que c'est très intéressant, parce qu'il me semble que ça ajoute vraiment quelque chose au film. Ce n'est pas une simple ponctuation, c'est un commentaire, là encore. Ça tire le film du côté de la fiction, c'est un peu comme la description dans un roman. Ça apporte quelque chose sur votre état d'esprit,
oui.
De façon métaphorique.
C'est ça. C'est ça.
C'est très intéressant.
C'est exactement ça.
Mais est-ce que ce n'est pas un peu votre spécialité professionnellement de monter des...
Ben, alors, j'ai pas mal travaillé pour Arte, pour faire des habillages.
On appelle ça des habillages.
On appelle ça des habillages. Autrefois, il y avait des soirées thématiques sur Arte, je crois qu'il y en a toujours d'ailleurs, mais autrefois, il y avait un habillage par thème de soirée thématique. Et donc, nous étions quelques graphistes à faire ce travail, qui était un travail fabuleux.
D'accord. OK. Alors, donc, pendant 5 ans, votre maison est devenue... un studio de cinéma,
oui.
Témoin de vos joies et de vos coups de cafard,
oui.
Quand tout avait l'air de capoter.
Oui.
Est-ce que cette invasion de l'espace privé a été quelque chose qui vous a aidé ou au contraire, parfois, est-ce que c'était un peu lourd à porter?
Bah, les deux. C'est-à-dire que parfois, ça permettait donc de mettre en mouvement, d'essayer d'imaginer quelque chose et donc de se mettre avec la caméra dans une construction. Et parfois, c'était insupportable parce qu'on l'avait partout. Donc, je me souviens d'un jour où on est allé en randonnée pédestre et on portait la caméra, quoi.
Au dos.
Au dos. Mmh. D'ailleurs, il y a des séquences de randonnée. Enfin, il y a un ou deux plans de randonnée pédestre. Alors maintenant, je suis très contente que ces plans soient là, mais ouais, c'était non-stop, quoi. C'était en permanence, ouais. Ouais, ouais. Oui, oui, c'était une...
Ça vous tenait au travail en
ouais,
même temps.
C'est ça.
C'était lourd.
Ouais.
Ouais. Alors, en même temps, on en a déjà parlé, mais j'y reviens. Toute la famille, là, c'est quelque chose de bien spécifique, est mise à contribution tout au long du film pour des travaux de maçonnerie ou de peinture que vous avez... Et vous avez inclus ces moments qui ont l'air, a priori, hors sujet. Pourquoi est-ce que vous avez inclus ces moments-là?
Parce que en fait, quand même, faire famille, c'est enfin construire une maison. Là, on construit pas, on rénove, mais on prépare le nid, quoi. Hein. Enfin bon, c'est un peu.
C'est ça. Oui.
Bah oui, mais c'est ça, quoi.
Bien
on
sûr.
Prépare le nid.
Tout à fait. Ouais. Je trouve que en même temps. Indirectement, ça pouvait être une façon comme une autre, disons, de vous remonter le moral, quoi.
Oui, 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 oui. Et puis, c'est ça aussi. Il y a une scène où Jean-Philippe tape pour casser un mur. En fait, quand on filme, on est physiquement actif. Hein, on a la caméra avec soi. Hein, on engage le corps. Construire une maison, on engage aussi. En fait, donc il fallait sortir aussi de... bah oui, mental, des possibles et des impossibles de l'adoption. Et puis, que le corps... c'est quand même une histoire de vie, hein, cette histoire d'adoption.
On vit aussi avec son corps.
Ben oui, c'est ça. Être parent, que ça soit biologiquement ou par adoption, c'est une histoire de corps. Hein, c'est une histoire de... De muscles, de sourires, d'odeurs. Enfin, on est... c'est de la vie, quoi.
Mais en plus, vous voyez bien la portée métaphorique qu'il y a à détruire, à taper contre un mur.
Ouais.
Parce que c'est un peu ce que vous en étiez, arrivé à vous taper la tête contre les murs.
C'est ça.
C'est une façon de se défouler.
Oui.
Là, métaphoriquement, on comprend très bien le rôle de ce geste.
Oui.
Voilà. Alors, venons-en au problème de l'adoption proprement dite, car votre film présente un très réel intérêt à tout point de vue pour les associations qui militent pour l'adoption. Est-ce qu'avec l'expérience qui est maintenant la vôtre dans ce domaine, vous diriez qu'adopter un enfant en France, surtout s'il s'agit d'adopter un enfant qui vient d'un pays en voie de développement aujourd'hui, est, même si l'expression n'est peut-être pas très heureuse, un véritable parcours du combattant?
Toujours et plus que jamais, je crois. Parce que en 15 ans, l'adoption internationale. Alors, je parle de l'adoption internationale parce que l'adoption nationale, de toute manière, est toujours assez réduite. Hein. Il y a assez peu d'enfants qui sont adoptables. Et à l'international, il y en avait beaucoup plus à une certaine époque. Alors, avec parfois des situations qui étaient des situations totalement. Non maîtrisé, non contrôlé, voire illégal. Donc, ce qui se passait il y a 15 ans n'est pas forcément, ou 20 ans, n'est pas forcément un étalon. Mais en tout cas, nous, à notre époque, quand on a adopté il y a 8 ans, déjà, c'était extrêmement structuré. Et il y avait environ 3000 adoptions par an. Là, je crois que c'est 500 maintenant. Donc, c'est extrêmement difficile d'adopter.
Et pourquoi est-ce que des pays refusent de... Enfin, pourquoi est-ce qu'ils refusent ça?
Alors, il y a plusieurs raisons. Certaines sont plutôt positives, c'est-à-dire qu'il y a des tas de pays dans lesquels, désormais, il y a une part de la population qui veut adopter, ce qui n'est pas le cas au Mali.
Donc les projets d'adoption qui viennent de l'extérieur font concurrence aux gens du pays, donc.
Oui, et donc c'est plutôt mieux. Enfin, une adoption nationale, c'est plutôt mieux qu'une adoption internationale.
Si on peut, c'est ce qu'il y a de mieux.
Oui, parce qu'il n'y a au moins pas de... S'il y a déjà eu un abandon, il n'y a pas de déracinement.
Il est moindre, en tout cas.
Il est moindre, voilà, c'est ça. Et puis bon, l'autre, de mon point de vue, hein, une des raisons, c'est que l'adoption internationale est un enjeu géopolitique. Et donc, il y a beaucoup de pays qui ferment aussi, qui se ferment, puisque en général, ça se passe du sud vers le nord. Et donc, il y a beaucoup de pays qui se ferment pour reprendre leur souveraineté. Alors, le problème de... Moi, je trouve que c'est plus que justice de reprendre sa souveraineté. Sauf que, par exemple, au Mali, les Maliens n'adoptent pas un enfant qui est sans origine connue. Donc, ces enfants-là ne seront jamais adoptés. Et donc, resteront toujours en institution. Donc, en fait, ce mouvement d'aller vers la souveraineté et vers l'adoption nationale, c'est super, si ça se fait. Et ça se fait pas toujours.
Ça se fait pas. Ouais. Donc on peut imaginer différentes raisons pour lesquelles ils refusent de voir les pays d'Europe du Nord adopter des enfants de chez eux. Évidemment, certainement qu'il y a le contexte colonial doit jouer un rôle.
Absolument, absolument. Ouais. Là, c'est très clair. Enfin, en tout cas, au Mali, c'est très clair que le Mali, depuis quelques années, veut vraiment se distancier de la France. Pour que ce passé-là soit une bonne fois pour toutes...
Pour l'exorciser quelque part.
Oui, peut-être, oui. Enfin, en tout cas, ne plus avoir affaire à la France.
À la France, oui. Ouais. Et pas que dans le domaine de l'adoption, d'ailleurs.
Non. Mais ça, c'est presque... Ça n'a pas de... Pour eux, c'est pas grand-chose, quoi,
c'est
je pense.
C'est pas grand-chose. Ouais. Alors, vous avez... Parlez-nous un peu des innombrables va-et-vient que vous avez dû faire auprès des politiques, tant en France qu'au Mali, pour arriver à obtenir gain de cause.
Oui, ils ont été très très nombreux, ces allers-retours, extrêmement nombreux. Ce qui est raconté dans le film, c'est à peu près 10% de ce qu'on a fait. Je pense qu'on a sollicité absolument tous les maires, députés, sénateurs, ministres, diplomates possibles et imaginables. En fait, tous ceux qui pouvaient avoir un lien avec l'adoption ou le Mali. Donc, on a sollicité énormément de personnes. Certaines nous ont répondu et certaines pas. Certaines ont agi. dont Valérie Trier-Valeur, qui a été d'un grand soutien pour nous jusqu'au moment où elle a quitté l'Élysée, mais aussi au ministère des Affaires étrangères. Alors, c'était toujours assez long, hein, et le temps diplomatique n'est pas du tout le temps humain. Non, absolument pas. Donc, ça mettait beaucoup de temps. Mais je dois dire que j'ai été... j'ai été très, parfois très admirative de l'engagement de certains hauts fonctionnaires. Alors donc voilà.
On ne peut pas généraliser, non, mais...
Non.
Et côté malien ?
Alors côté malien, c'était beaucoup plus compliqué. D'abord parce qu'on n'avait aucune...
entrée.
Alors, bah, des entrées, on en a créées.
Oui.
Mais surtout, on n'avait aucune légitimité. Parce que...
Vous alliez à l'encontre de la loi.
Voilà.
Oui.
Eux nous disaient, mais vous n'avez rien à réclamer. Et on ne réclamait rien, si ce n'est qu'il y avait eu un apparentement. Enfin, non, il n'y a pas eu d'apparentement, justement. Il y avait eu sélection. Donc, nous, on avait fait un chemin vers le Mali qui nous avait accepté. Et donc, on se disait, mais continuons ce chemin et allons jusqu'au bout. Et donc, au Mali, ça a été un peu plus compliqué, un peu plus long. Et puis, il y a aussi... de notre part, une méconnaissance hein. Des usages. Donc, il a fallu aussi du temps pour qu'on apprenne.
Vous avez progressé, bien sûr.
Mais oui.
Dans ce domaine.
Oui.
Et à quoi vous attribuez la solution que vous avez fini par trouver, qui tient un peu du miracle ?
Oui. Alors, j'espère... que une des raisons, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est donc normalement, mais j'espère, parce que donc ces enfants, s'ils ne sont pas adoptés à l'étranger, ne sont pas adoptés au Mali.
Du tout.
Il y en a 10 par an. Pour à la pouponnière numéro 1, ils sont 250. Hein. Et il y a 4 pouponnières à Bamako. Donc c'est un nombre infime qui est adopté. Infime. Donc, bon, j'espère qu'ils ont pensé aux enfants, parce que la Convention de la Haye prône qu'un enfant doit vivre dans une famille hein, et pas dans une institution. D'autant que ces institutions sont des institutions assez fragiles.
Hein. Même de financement
oui,
et tout.
Oui, c'est ça, oui. Nous avions le soutien du ministre de la Justice.
De là-bas, donc ?
De là-bas, oui. Et le président de l'époque, hein, Ibrahim Boubacar Keïta, semblait aussi soutenir ouais, notre démarche.
Donc ça se finit par se débloquer.
Ça finit par se débloquer.
J'imagine qu'au niveau des institutions, les personnes qui travaillent auprès de ces enfants dans les institutions ont pu être d'un grand secours pour vous.
Non.
Pas vraiment.
Non. Non, parce qu'elles sont des dames. Sont sous la tutelle de leur ministère, donc elles n'ont pas...
Pouvoir, non. Aucune.
Mais on était en lien avec elles.
Vous étiez en lien avec elles, bien sûr. Alors, justement, parlons du principal intéressé. Quel âge a Arthur, votre fils, aujourd'hui ?
Il a 9 ans.
Il a 9 ans. Mmh. Et alors, à la fin, il y a une scène que je trouve magnifique.
Ah, il ne faut pas la raconter.
Ah, mais je n'en parlerai pas. Mais elle est magnifique, c'est tout. C'est tout, mais vous êtes d'accord, elle est magnifique.
Moi, je l'aime beaucoup, oui.
Ah, ben oui, on l'aime tous.
Oui, je l'aime beaucoup.
Bah, qui répond à la question que je vous posais. Voilà. Alors, oui, je voulais poser une autre question qui m'échappe maintenant, et c'est dommage. oui, j'allais dire que c'est un film à suspense, finalement. Et ça rattache à ce que j'ai dit depuis le début, en filigrane. Il y a cette dimension film de fiction dans le...
Ben, oui, mais dans le...
On pourrait très bien imaginer une fiction.
Oui, absolument.
À partir de ça.
Mais dans le documentaire qui s'accroche au réel peut tout à fait avoir une part de suspense. Parce que dans le réel, il y a beaucoup d'incertitudes. Hein. Mm-hmm. Moi, j'ai voulu, dans la réalisation de ce film, que le spectateur y suive les péripéties, mm-hmm. les hauts et les bas...
C'est clair.
Mais qu'il soit avec ce couple
qui se bat.
Oui, qui se bat, oui. Oui.
Tout à fait. Je voulais vous demander aussi, puisqu'on y est, que si vous êtes dans votre métier, c'est de travailler dans le cinéma, vous avez des projets d'avenir ?
Et alors, oui. qui est encore qui est en pleine naissance, qui en est à peine au stade de l'écriture. Donc c'est tout, c'est même pas encore un nouveau-né.
D'accord.
Mais et peut-être que ça se fera longuement comme
Rififi
comme dans le tiroir.
Voilà.
Et peut-être que ça viendra ici dans quelques années, on verra.
On vous accueillera avec le plus grand plaisir.
Merci.
Voilà, bon, bah, écoutez, moi qui ai vu ce film et qui l'ai vu de près pour préparer cette interview, je veux vraiment aller le voir. On l'a dit, c'est un documentaire, mais c'est aussi un film de fiction. C'est très émouvant, c'est plein de peps, il y a un dynamisme bon, qui tient... J'ai envie quand même de le dire, beaucoup, beaucoup à son auteur qui est là, Anne Morin, qui vraiment, elle a une performance à la fois, elle fait tout là-dedans. Elle est mère de famille, elle est metteur en scène, elle est monteuse, elle est un peu maçon parfois, elle fait aussi la cuisine. La compote de pommes. N'oubliez pas d'aller le voir. Alors, en parlant de ça, vous allez intervenir en salle, je ne sais plus exactement quel jour.
Ah, moi, je sais. Dimanche à 14h au Bourneau.
14h au Bourneau, venez voir Anne Morin et son film magnifique Rififi dans le tiroir. Voilà, merci de votre attention.
Merci René Sabaton.
Vous êtes la bienvenue, merci Anne Morin.
Merci.